Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette intervention où vous posez tout de suite finalement les grandes questions auxquelles on se confronte à partir du moment où il y a un projet, en tout cas d'édition dans l'environnement numérique. Et d'abord, avec, c'est vrai que le cas de la correspondance de Beaumarchais est finalement très fécond pour manifester tous ces problèmes, notamment de la constitution du corpus. Alors bien sûr, vous avez repris ce qui a tout de suite séduit les éditeurs de correspondance avec le développement des entreprises électroniques, ou en tout cas maintenant pour dire plus numérique, c'est cette possibilité finalement d'utiliser un dispositif qui permette d'enrichir un corpus et d'avoir cet aspect indéfini du numérique qui correspond très très bien à la correspondance. Oui, pardon pour ce mauvais jeu de mots qui était involontaire. Donc cette question-là, oui, la structuration du corpus, la question du corpus redistribué en sous-corpus. Et en même temps, vous l'avez très bien connecté avec la question de la redistribution aussi de l'apparat critique, de la valorisation de toutes les études antérieures, les études du corpus antérieures à son édition. Et en posant, merci beaucoup, puisque c'est exactement ça le terminer avec ce mot de défi, et c'en est vraiment un, c'est-à-dire d'envisager donc un site, en tout cas une édition numérique de correspondance qui dans un même site doit répondre à plusieurs types d'usages, en tout cas envisager, qui doit pouvoir ménager aussi de nouveaux usages. Et la question, donc bien sûr, des perspectives ou patrimoniales, moi je dirais il faudrait un site qui réponde à tous ces critères et qui s'adresse à la fois, qui réponde aux normes archivistiques, dans une perspective patrimoniale, mais qui réponde aussi aux normes scientifiques et des études critiques des sources et de bien montrer aussi de montrer le côté, l'authenticité du document, avec en même temps que sa représentation numérique. Et bien sûr, c'est question du traitement, c'est-à-dire que dans un traitement, c'est pour ça qu'on passe un peu là de l'édition à l'éditorialisation, c'est-à-dire le traitement numérique d'un corpus de correspondance, c'est-à-dire avec cette mise en données, c'est-à-dire cette documentation aussi qui est faite par la détermination de données pertinentes pour à la fois diffuser et rendre accessible une source, mais aussi pour l'interroger. Hein. Et ça, vous avez vraiment, avec cette question de changement d'échelle que permet le numérique, finalement, de passer des phases de lecture humaine à des phases d'études plus computationnelles. Voilà, donc vraiment, c'était une merveilleuse introduction qui pose finalement tous les grands problèmes hein, dans la gestion d'un projet numérique, en tout cas d'édition en environnement numérique, donc d'éditorialisation. Et bien sûr, je vais m'arrêter là, mais sur toute la question de ces usages aussi didactiques et culturels, hein, finalement de ces corpus de correspondance et de ces enjeux aussi dans le traitement scientifique de ces correspondances pour atteindre aussi ces nouveaux publics. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Peut-être il y a d'autres questions sur le chat ou des personnes qui veulent intervenir, pas forcément pour une question, mais pour aussi un commentaire ou souligner un élément de la communication qui...
Donc, en attendant les questions qui vont peut-être arriver, merci beaucoup Bénédicte, effectivement, pour cette communication passionnante, effectivement, qui recoupe bien les problématiques de nos propres corpus et de nos propres outils d'édition numérique. J'aurais peut-être finalement des questions plus pratiques ou plus techniques, en effet, dans le cadre de votre projet d'édition de la correspondance de Beaumarchais. Est-ce que finalement, tout simplement, vous allez faire appel à la TEI pour encoder votre édition?
En fait, pour l'instant, on est vraiment au seuil, c'est-à-dire que même le support n'a pas été choisi pour l'instant. Donc, ce sont vraiment des pistes de réflexion que je pose Donc la question de la TUI, en gros, on n'y est pas encore, en fait. Mais oui, ce sera une des questions si jamais le support électronique est finalement choisi.
Enfin, peut-être que Marie va me contredire, mais est-ce que justement dans une chaîne éditoriale, hein, papier et numérique ou papier ou numérique, finalement la TUI n'est pas malgré tout à la base en fait de l'édition, hein, qu'on ait en fait une transcription du corpus TUI qui ensuite va vers le papier ou vers le numérique ou vers les deux en même temps. En termes de méthodologie, Marie, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, mais alors c'est vrai que du coup, tu manifestes mon côté. C'est vrai que je ne suis pas pour tout l'encodage TUI et systématique. Mais ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, Bénédicte, c'est que vous associez bien la possibilité d'un encodage TUI par rapport à des résultats d'études antérieures à l'édition. Et là, du coup, oui. Parce qu'on n'est pas dans un balisage exhaustif et intégral de tout le discours épistolaire, mais d'aller sur un balisage ciblé par rapport à des phénomènes que vous avez observés et qu'il y a une volonté de pouvoir observer sur un plus grand volume. Voilà. Et là, et justement, Jean-Sébastien, c'est vrai que j'ai été tout à fait sensible à ça, parce que j'ai toujours... Ah, et vous posez aussi bien cette question du temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le numérique, tout se fait rapidement, mais finalement, c'est assez long, l'établissement de gestion numérique, que ce soit déjà par rapport au choix de l'outil. Vous dites support, mais je pense que vous voulez dire aussi comme ça, le choix de l'outil, et sûr, avec toute la question des financements, de la pérennité de l'outil, de la possibilité d'actualisation. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème. Mais là, j'ai été justement, en vous écoutant, je pensais vraiment ça en disant, voilà, ça, c'est en termes de stratégie éditoriale et de stratégie de balise TEI, c'est quelque chose qui serait tout à fait, qui même fait envie, hein, en termes de... aussi de pouvoir, une fois que la question a été déterminée ou le phénomène délimité et qu'on sait où l'observer, oui, je crois que là, c'est ça. En effet, mais là, tu vois, je suis tout à fait d'accord, Jean-Sébastien.
Merci. Et justement, par rapport au corpus, ça m'a peut-être échappé, et ne connaissant pas bien la correspondance de Beaumarchais, mais quel est le volume de lettres que vous allez approximativement éditer ?
1500 lettres. Il y a à peu près 1500 lettres publiées actuellement. Donc, on va établir également un inventaire des lettres inédites encore. Mais bon, on est à peu près dans ce volume-là pour l'instant.
D'accord. Oui, mais là, j'en profite pour souligner aussi la question, finalement, en termes de gestion pour un éditeur de correspondance, finalement, la première phase qui est quand même l'inventaire. Décisif. Et ça, c'est vraiment une pratique traditionnelle où on doit faire une sorte de catalogue aussi pour avoir une idée du corpus aussi, ce qui manque ou pas, ou des lettres fantômes. Et qui prépare finalement la mise en données. Donc, sur une pratique très traditionnelle, eh bien, c'est aussi la détermination de ce qu'on appelle les métadonnées. Et finalement, c'est aussi ça. Et en fonction, et c'est vrai que ça, c'est une dimension qui semble vraiment passionnante dans la correspondance de Beaumarchais, c'est cette diversité de destinataires, cette question aussi des aires géographiques, c'est-à-dire que le lieu de rédaction, là, du coup, la donnée lieu de rédaction et lieu de destination, et pas seulement une sorte d'information comme ça en plus, mais qui aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir traiter, analyser et observer en environnement numérique avec la question, bien sûr, d'études de réseau. Il y a et tout ce qui est la cartographie et des études de flux. Voilà.
Alors, je répercute simplement une remarque de Richard Walter, hein, qui est sur le fil de discussion, et qui écrit mieux ce que je dis moi, finalement, par rapport à la TUI, hein, effectivement. C'est que la TUI est utilisée actuellement par la plupart des éditeurs, y compris papier, comme support pour différents types d'utilisation. En fait, hein. Voilà, c'est un peu en ce sens-là qui était ma remarque de tout à l'heure. Peut-être que Camille Koskas a une question, une remarque ?
Bonjour. J'ai pas de questions en particulier. J'ai trouvé que cette présentation était vraiment très 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 riche et intéressante et les points que vous avez soulevés faisaient écho à certains à certains, comment dire, à certaines problématiques que nous avons rencontrées, nous, dans le cadre du projet Polan, qui est un projet d'édition de correspondance avec une dimension patrimoniale menée en partenariat avec l'IMEC. Et ce que j'ai trouvé, le point qui m'a beaucoup intéressée dans votre présentation et sur lequel Marie a réagi aussi, c'est cette question du temps, de la temporalité, parce que vous montrez très bien, je trouve, toutes les séductions, et je ne dis pas ce mot dans un sens péjoratif, mais du numérique par rapport au type de corpus dont vous parlez. Et en même temps, vous posez la question de l'historicité d'un site, de l'inscription d'un projet dans une temporalité, et de la pérennité, enfin de puisque le projet Polan a commencé en 2013, avec voilà une équipe beaucoup de... et là nous sommes confrontés à comment mener ce projet sur, enfin puisque le corpus n'est pas clos et ne le sera pas par définition, et je me demandais comment vous anticipiez cette question, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, par rapport à l'équipe dans laquelle vous évoluez. Voilà.
En fait, effectivement, la question de la durée des éditions numériques se pose sur tous les plans, c'est-à-dire la datation du site en tant que... qu'une édition qui s'inscrit dans l'histoire du genre, mais la pérennité des outils, parce qu'on ne sait pas, beaucoup de gens signalent quand même que le papier durera peut-être plus longtemps que nos outils numériques, donc que fait-on avec ça? Et la question des équipes, parce qu'en fait, vous avez raison d'utiliser le terme de séduction, ces sites numériques offrent des possibilités merveilleuses. On est tous en train de s'extasier devant les possibilités techniques qu'ils offrent, mais en fait, c'est extrêmement chronophage. Donc, c'est pour ça que je suis, en fait, pour l'instant, encore une fois, je rappelle que le support n'a pas du tout été choisi, que je lance des réflexions, mais que disons que ça conviendrait bien à cette édition de Beaumarchais qui est très incomplète, mais en même temps, elle suppose tellement d'efforts techniques, financiers, d'équipe que je ne suis pas sûre que ce soit finalement la meilleure solution. Vraiment, c'est une question que je pose. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Peut-être que Richard Walter pourrait souligner le fait qu'on a tous un peu du mal à ouvrir nos sites parce que ça prend vraiment énormément de temps, ce genre de choses. Donc, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai posé beaucoup de questions, en fait.
Évidemment, je pense qu'on est tous là, finalement, dans ce webinaire, à se poser beaucoup de questions hein, sur les outils que l'on utilise, sur les supports d'édition. Voilà, donc effectivement, après cette réflexion, effectivement, elle est menée dans le cadre effectivement de nos équipes, des moyens dont on dispose, et en fonction effectivement aussi de voilà des usages qui sont visés par ces éditions.
Voilà, après, l'équipe Zola a réussi à ouvrir son site de correspondance sur Iman, et bravo, parce que c'était un gros travail et vous l'avez ouvert.
Oui, mais parce qu'on a pu se limiter à un petit corpus.
Alors voilà, on fait des choix drastiques.
On avait les 20 000 lettres supposées reçues par Zola, on n'aurait pas réussi à faire l'édition, tandis qu'en prenant un corpus réduit de 2500 lettres, finalement, c'était plus envisageable sur un temps assez court, d'à peu près 2 ans, 2 ans et demi, en fait. Voilà. Mais pour la correspondance active de Zola, qui est déjà éditée, malgré tout, ça va nous demander encore 2 années de travail pour faire cette édition. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai que quand on procède par sous-ensemble, quelque part, bien délimité, ça nous permet, brique après brique, peut-être, voilà, de construire une édition au fur et à mesure, en fait, voilà, et pas une édition qui serait figée sur le bloc offerte dès le départ au lecteur.
Oui, alors je voudrais absolument, hein, c'est-à-dire que les questions que les problèmes que posent des corpus, de grands corpus comme ça, de dire est-ce qu'on sera jamais prêt finalement au moment où tous, enfin, est-ce qu'il faut ouvrir et rendre public au site à partir du moment où tout est édité. C'est vrai que la stratégie finalement d'édition en sous-corpus thématisé est à la fois une stratégie pour pouvoir documenter un corpus et de pouvoir aussi tester sa méthode éditoriale, parce que c'est plus facile après finalement de réajuster exemple, des éléments qu'on n'aurait pas indiqués ou qu'on n'aurait pas pensé comme données pertinentes pour une exploitation de la correspondance. Les choses peuvent être, ça permet finalement un temps de réaction plus... moins important, voilà, moins long. Donc ça, je crois que c'est une chose. Et puis, du coup, en profiter pour aussi voir l'avantage, je crois, qu'est par exemple une plateforme que donne une plateforme comme Imane, et l'idée d'un l'usage d'un outil générique d'édition, c'est-à-dire qu'en termes de pérennité technologique, hein, et en termes de soulagement, enfin, il y a toujours la part de l'angoisse de l'éditeur, de dire ben, finalement quand ça sera prêt, l'outil sera caduque à partir du moment où l'édition sera prête. Hein. Voilà, l'idée aussi vraiment qu'il y ait une actualisation régulière et l'idée d'être dans une communauté avec plusieurs à utiliser un outil, c'est une sorte de gage de pérennité finalement et de vie de l'outil et de nécessité aussi pour la recherche scientifique de maintenir un outil générique en état de fonctionnement. Voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on apprécie tous chez Imane en termes de sécurité, voilà, dans ce temps long de l'édition.
Voilà, et Richard, Walter, sur le fil de discussion, complète justement sur ce temps long en disant qu'effectivement, l'édition numérique, finalement, permet le work in progress, quelque part. En fait. Voilà,
c'est... Oui, c'est même l'intérêt d'avoir une dynamique comme ça où finalement c'est comme un objet qui est sans cesse actualisé, voilà, qui n'est pas figé. Et c'est pour ça qu'aussi dans les conditions d'ouverture des sites, je crois que vraiment il y a une idée à partir du moment, rien que pour présenter le site et pour valoriser aussi cette démarche éditoriale, l'ouverture du site sur un petit corpus exemple peut aussi être une aide et une stratégie. Alors, je ne sais pas si Céline Ferjou a quelques réflexions ou Sophie.
Moi, j'ai beaucoup apprécié cette présentation, parce que évidemment, ça rejoint ma propre expérience sur le site Hall. Concernant Vernon Lee, effectivement, le groupe est un soutien très important. Le partage d'expérience permet aussi de tenir sur la durée, quoi. Parce que effectivement, c'est un processus chronophage qui est parfois un petit peu addictif, mais parfois décourageant lorsque justement l'équipe qui était présente initialement n'est plus là, quoi, hein. Ou bien lorsque soi-même on traverse des difficultés diverses et variées. Donc effectivement, le groupe est très important. Et puis, je crois qu'il faut aussi quand même être ambitieux, oui, mais bon, dans la réalisation... il faut quand même accepter d'être un peu humble et effectivement de publier un petit corpus plutôt que de se lancer dans le grand projet. Enfin, il y a un moment où vraiment on est confronté à la réalité. Enfin, il faut être un petit peu pragmatique et on est forcément ramené à des choses plus réalisables. Voilà, mais dans le cadre de Beaumarchais, visiblement la totalité du corpus traité, enfin dont vous envisagez l'édition numérique, est déjà transcrite. Les lettres sont déjà disponibles, les lettres sont déjà transcrites. Il n'y a pas, même si des vérifications sont à faire, et bien entendu le problème qui a été évoqué au début. C'est déjà un bon point de départ quand même, hein. C'est un socle solide sur lequel vous pouvez appuyer la suite du travail. Dans mon cas, j'ai voulu faire les deux, quoi. Donc je n'avais pas je menais les deux projets parallèlement en me disant que j'allais extraire de l'édition numérique ce qui me conviendrait pour l'édition papier d'une édition de lettres choisies. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé au final. Au final, eh bien, il a fallu terminer l'édition papier, ce qui a pris 4 ans pour un volume de 420 lettres. Voilà, donc il y a des événements dans la vie d'un projet qui nous conduisent à faire quelques aménagements. Et le groupe, je tiens quand même à le répéter encore, le groupe est vraiment la grande force de la plateforme Iman. Hein. C'est le facteur humain qui est vraiment formidable. Donc, plus ou moins avancé, plus ou moins en retard, des moments plus ou moins de marasme. Bon, comme là, avec le Covid, certains ont pu avancer énormément, d'autres moins. Enfin, et tout ça se partage et c'est... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se lancer rien que pour ça, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Sophie.
Moi, est-ce que je suis en ligne là?
Oui.
Oui?
Oui, oui.
Oui. Donc je trouve tout cela très intéressant. Mais je voulais vous citer l'exemple, parce que vous parlez de groupe, de pérennité, etc. Je voulais vous citer l'exemple d'un chercheur complètement solitaire qui a mis en ligne une quantité considérable de correspondances de protestants du XVIIe siècle, qui s'appelle Jean-Luc Tulot, et qui travaillait au Conseil général de Saint-Brieuc, et qui a constitué son propre site, et il a mis en ligne les correspondances de la sœur de Turenne, de la famille de la Trémoille, de la Tour d'Auvergne, un travail absolument énorme qu'il a mené tout seul. Et alors, il fait des introductions, des notes. Alors, je ne pense pas qu'il utilise un outil éditorial particulier, mais voilà, donc je voulais vous donner ce témoignage du fait qu'il y a aussi des chercheurs isolés qui sont intéressés par ce type de publication. Alors, en même temps, ces publications de lettres de protestants, enfin, un volume a été publié sur papier, ce sont les lettres d'Henriette de la Tour d'Auvergne. Mais tout le reste est publié en ligne. Et je trouvais ça. Ce site, c'est absolument une mine d'information. Et c'est un homme qui fait ça depuis au moins 20 ans. Enfin, peut-être pas 20 ans, mais au moins une quinzaine d'années. Donc, ça doit être un encouragement aussi. Ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Nous avions publié il y a assez longtemps un article de ce monsieur. Donc c'est très courageux, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Moi, je ne connaissais pas cette édition numérique, donc on va aller regarder comment elle est faite, comment elle est constituée, pour voir un petit peu quelle a été la méthodologie en fait d'édition de ce corpus. Merci beaucoup.
Voilà, et là, il y a Céline Ferjou aussi, indique dans le chat qu'elle nos échanges lui font penser au projet américain des lettres de la famille Adams, et elle donne le lien, je ne sais pas si Jean-Sébastien, tu peux récupérer le lien dans le chat du rendez-vous Renater pour le
public. Je récupère.
Voilà. Aussi, merci. Voilà, et peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou...
Voilà, a priori, il n'y a plus de questions sur le fil de discussion. Parce que là, finalement, on a plusieurs lieux en fait de questions réponses. On est dans la schizophrénie, mais a priori, on n'a plus de questions. Alors peut-être que on peut conclure. Bien déjà en vous remerciant, Geneviève Haroche et Bénédicte Lobis, d'avoir inauguré finalement cette première séance de webinaire. sous un format technique nouveau pour nous, hein, grâce aussi à nos collègues de Poucher qui sont à l'arrière en train de filmer, de gérer le fil de discussion. C'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place cet outil, donc j'en profite pour les remercier. Et puis, merci à tous les participants, spectateurs qui ont posé des questions, qui ont assisté à cet après-midi, en vous invitant d'ores et déjà à la prochaine séance, hein, mais on vous enverra bien sûr l'information par mail, hein, mais qui se déroulera le 15 janvier avec Andrea Cellino, Aurélia Cervoni pour la correspondance Flaubert et Sophie Geoffroy pour Vernon Lee. Donc, on vous dira d'ici là quel dispositif technique on va mettre en place, mais certainement qu'on va renouveler cet outil utilisé aujourd'hui, avec peut-être une possibilité d'être quelques-uns en présentiel rue Poucher.
Très bien. Alors, merci beaucoup. Et oui, à la fois aux intervenants et aux connectés. Je ne sais pas si ça, on pourrait le dire comme ça, en tout cas aux personnes qui se sont connectées et qui nous ont suivis de cette façon-là. Exactement. Et donc, un rendez-vous pour la prochaine séance où seront interrogées la question qui a été déjà posée, hein, c'est-à-dire le côté... complémentaire, comment coordonner une édition papier d'une édition numérique, et de voir les questions que ça pose, les solutions que ça donne, et puis pour le développement de ces études épistolaires. Voilà,
merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.